explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Vous croyez que je vais plus regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je fais point.
Daniel Fievé.
Il est des endroits, ou peut-être devrais-je dire des moments dans l'univers où le temps se transforme en espace et où l'espace se transforme en temps. Des sphères dont rien ne peut s'échapper, des astres fascinants qui peuvent concentrer en un point des quantités de matière phénoménale, l'équivalent de plusieurs milliards de soleils. Les scientifiques ont baptisé ces monstres cosmiques les trous noirs. Trous noirs parce qu'ils ne peuvent ni émettre ni réfléchir la lumière. Trous noirs peut-être aussi parce que ces objets célestes restent bien mystérieux. À ce jour, aucune théorie physique ne permet de décrire ce qu'il se passe au centre d'un trou noir. Alors que sait-on exactement à leur sujet ? Comment se forme-t-il ? Et l'univers entier pourrait-il un jour disparaître dans un trou noir ? Aujourd'hui, c'est avec une immense prudence et beaucoup de curiosité que nous vous emmenons bivouaquer au bord des trous noirs.
Mes amis, je ne sais où nous allons.
Sur France Inter.
Je ne sais si nous reverrons jamais le globe terrestre.
Daniel Fievé.
Nous sommes transportés dans l'espace.
Le temps d'un bivouac.
Observe.
Comme tous les jeudis à 16h, nous décollons pour un bivouac cosmique avec pour guide aujourd'hui Aurélien Barraud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Grenoble-Alpes et chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS. Vous avez publié « Au cœur des trous noirs » aux éditions d'Uno et chez le même éditeur « Big Bang et au-delà, balade en cosmologie ». Vous allez donc nous emmener à la découverte des trous noirs, ces astres qui mettent à l'épreuve les théories actuelles de la physique. Nous sommes en direct et pour adresser une question à Aurélien Barraud, vous pouvez passer par la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. À 17h, retour sur Terre ou plutôt en mer, nous irons naviguer dans la tempête du côté des écueils féroces de la Pointe Finistère à bord d'un remorqueur de sauvetage. Voilà pour la feuille de navigation du route du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne et préparée par Alexandre Chaune et Mathieu Aoued.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir ? Si vous voulez le savoir, vous pouvez vous diriger en fusée vers un trou noir et aller vous plonger dans le trou noir. Là, vous saurez, mais vous ne viendrez pas le dire à vos amis. Vous serez complètement coupé de toute communication puisqu'aucun message ne venant de votre capsule qui s'est sacrifiée pour voir ce qu'il y a dans le trou noir, aucun message ne pourra arriver à l'extérieur et renseigner vos amis. Donc, ce sera un sacrifice total.
La douce voix d'Hubert Reeves nous proposant un voyage sans retour à l'intérieur d'un trou noir. Il a raison, Aurélien Barraud, un vaisseau spatial pourrait pénétrer à l'intérieur d'un trou noir sans être instantanément détruit.
Oui, les trous noirs les plus massifs sont les moins dangereux et en effet, le voyage est à sens unique. Pour autant, il n'est pas nécessairement destructeur et on pourrait envisager de vivre quelques heures à l'intérieur d'un trou noir suffisamment gros.
Et qu'est-ce qu'on verrait ? Qu'est-ce qui se passerait concrètement dans le pare-brise de notre vaisseau ?
Alors, à la fois, il se passerait des événements extrêmement intéressants, impressionnants, peut-être même émouvants du point de vue plastique, parce que l'image du ciel serait radicalement distordue ou distendue par ces effets d'espace-temps malléables qui ont lieu au voisinage des trous noirs. Et simultanément, du point de vue physique, on ne ressentirait pas grand-chose, parce que ce que nous avons compris depuis quelques décennies maintenant, c'est que lorsqu'on rentre dans le trou noir, qu'on franchit ce qu'on appelle la surface ou l'horizon, il ne se passe rien de particulier. L'horizon n'est pas une surface matérielle. On ne se heurte pas sur un trou noir.
Ouais, alors ça, c'est intéressant. Comment il faut se les représenter, en fait, ces trous noirs ? C'est une sphère, c'est un entonnoir, c'est un point. À quoi ça ressemble pour de vrai ?
Alors, pour de vrai, vous savez, la science est toujours en délicatesse avec cette vérité qui, on le sait, suscite beaucoup de crispations, à mon avis, injustifiées. Toujours est-il qu'au sens usuel du terme, la réponse est facile, c'est une sphère. Voilà. Les trous noirs sont des boules. Elles ne sont pas du tout des entonnoirs du point de vue de leur représentation imagée depuis l'espace extérieur. Mais on peut donner une analogie finalement pour comprendre comment fonctionne cette surface, cet horizon. Imaginons des poissons qui sont dans une rivière. Tant que le courant ne va pas trop vite, les poissons peuvent aller en avant ou en arrière. Mais quand la rivière accélère vers la chute d'eau, vient un moment où même si le poisson nage en arrière, en fait il va en avant parce qu'il n'est plus capable de contrecarrer le courant. Il a passé l'horizon. En l'occurrence, c'est un horizon sonore et pour les trous noirs, c'est un horizon lumineux. Mais vous voyez bien que quand le poisson passe le point de non-retour, il ne se heurte pas à un objet physique. Ouais. Il ne le ressent pas. De De la même manière, l'astronaute ne s'écrase pas contre la surface du trou noir.
Il n'y a pas de paroi au trou noir, il y a une frontière virtuelle qui est ce point de non-retour.
Exactement, c'est une surface mathématique qui est visible parce qu'elle est effectivement noire quand on la regarde, mais elle est dépourvue de toute forme de matérialité.
Donc ça se traverse aisément, mais par contre on ne revient pas en arrière.
Alors il va quand même se passer quelques petits inconforts à un moment ou à un autre, hein. Mais en effet, la surface elle-même n'est pas destructrice.
Le moment où ça devient destructeur, c'est quand on arrive au centre du trou noir, là où on ne sait plus trop ce qui se passe.
Alors,
finalement.
Le moment où on arrive au centre, ça c'est vraiment stricto sensu la fin du temps, ce qui est assez quand même radical comme fin de vie ou comme fin de film. Mais avant même d'arriver à ce lieu qui est vraiment paroxystique, hein, qui est ce qu'on appelle la singularité, qui est le moment où tout diverge, on va quand même de toute façon subir des effets un peu désagréables d'écartèlement, parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet de marée. Vous savez, de même que la Lune agit sur la Terre et étire un petit peu la Terre, eh bien le trou noir va étirer l'espace autour de lui, et si je tombe sur un trou noir, mes pieds seront plus attirés que ma tête, si tant est que je saute évidemment avec les pieds en premier. Ouais. Et cet effet qui est négligeable sur Terre, mais qui existe déjà, va devenir très intense au fur et à mesure que je m'approche du trou noir, et je vais en réalité mourir écartelé avant même d'atteindre la fin du temps. Ce qui est dommage, hein. Moi, mourir avec la fin du temps, je trouve que ce serait plutôt une belle fin.
C'est ça, oui. En tout cas, on a du mal à se le figurer. Vous nous le dites avec des mots simples, mais ça devient difficile de le concevoir réellement. Les trous noirs ont d'abord été envisagés comme des objets théoriques, des sortes de possibilités. Les premiers qui les ont envisagés même pensaient qu'on les observerait jamais ou qu'on ne les détecterait jamais. C'est avant tout une théorie qui s'est avérée plus vrai que juste une théorie.
Oui, c'est une belle histoire, en effet. Ils ont été inventés non pas par Einstein, hein, comme on le croit souvent, mais par John Mitchell et Pierre-Simon de Laplace au XVIIIe siècle. Parce que l'idée est simple, finalement. Pour s'échapper d'un astre, il faut une certaine vitesse. Et dès qu'on a compris que la vitesse de la lumière est finie, eh bien, on peut imaginer un astre suffisamment dense pour que même la lumière ne puisse pas s'échapper. C'est la définition d'un trou noir, et on l'a déjà posée il y a plus de 250 ans. Mais en effet, quand on fait le calcul de la densité nécessaire pour que ceci soit à l'œuvre, on trouve des valeurs faramineuses. Il faudrait par exemple concentrer la totalité de notre planète, la Terre, dans une sphère de quelques millimètres pour qu'elle devienne un trou noir. Et à ce stade, un esprit normalement constitué se dit « c'est une possibilité mathématique, mais bien évidemment, ceci n'existe pas dans la nature. » Donc c'est une simple étrangeté de nature purement théorique. Et même Einstein, finalement, quand il a formalisé ensuite les trous noirs dans le cadre de la théorie de la relativité générale, a cru qu'il s'agissait d'objets purement théoriques et hypothétiques parce qu'il se passait des choses très étranges. Et c'est bien plus tard qu'on a compris non seulement que la théorie permettait de les décrire correctement, ce que même Einstein n'avait pas compris au départ, et simultanément, pourrait-on dire, qu'on a compris qu'il y avait des objets dans le ciel qui étaient suffisamment extrêmes pour effectivement conduire à ce type de processus.
Alors ces objets extrêmes absorbent la lumière, ne la renvoient pas. Donc par définition, pour voir quelque chose avec nos yeux, il faut que ça émette de la lumière, ou même avec nos instruments de mesure. Alors comment on les détecte?
Oui, vous avez raison, et en même temps, je pense que c'est intéressant de prendre ce prétexte pour déconstruire en quelque sorte le primat de l'observer. Vous voyez, l'amour, la haine et l'amitié ne s'observent pas directement par la lumière qu'elles émettent.
C'est vrai.
Et elles existent. Et même sans être aussi spirituel, pourrait-on dire, les quarks aujourd'hui existent et on ne les voit pas. On a des indications indirectes de leur existence. Mais finalement, tout est indirect. Je ne vous vois pas en ce moment, Daniel, dans le studio. C'est un processus très complexe d'interaction de la lumière avec votre peau, avec ma rétine. Donc finalement, toute connaissance scientifique est médiate, hein, par opposition à immédiate. Et finalement, les trous noirs, on a aujourd'hui tout un ensemble d'indications de leur existence qui sont en effet non directement visibles, parce qu'ils agglutinent de la matière et on voit cette matière agglutinée, parce qu'ils éjectent des particules relativistes et on voit ces particules relativistes, parce qu'ils émettent des ondes gravitationnelles, peut-être y reviendra-t-on, et on les a observées, et ainsi de suite. Et parce qu'on voit aussi des orbites d'étoiles qu'ils ne peuvent pas s'expliquer autrement. Mmh. Et ça, en quelques instants, je trouve que c'est très intéressant du point de vue épistémologique, donc du point de vue de la philosophie des sciences, parce que ça montre qu'une découverte en science, c'est pas simplement ou forcément une observation, c'est simplement une situation dans laquelle l'objet cerné est la meilleure explication possible. Ouais. Et le fait est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de meilleure explication possible à un certain nombre d'observations que les trous noirs, ouais. Ce qui nous permet de conclure qu'ils existent.
C'est-à-dire, par exemple, ça peut être ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles, cette façon de voir deux étoiles ou deux planètes distantes, parce qu'entre les deux, il y a ce trou noir qui fait une sorte de lentille qui dévie la lumière. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué là.
Mais... Oui, alors disons que les lentilles gravitationnelle, alors qui, comme vous l'avez très bien expliqué, sont précisément un effet de déformation de l'espace qui vont induire un infléchissement des rayons lumineux, existent indépendamment des trous noirs, hein, puisque n'importe quel corps massif va faire un effet de l'antigravitationnel. Les trous noirs pousseraient en quelque sorte à son paroxysme ce processus, et en effet, on verrait non seulement plusieurs images de chaque étoile, alors on peut le comprendre assez facilement intuitivement, il y a la lumière directe qui provient d'une étoile, qui est à peu près à sa position normale, et imaginez la lumière qui va passer derrière le trou noir, qui va être défléchie par le trou noir et revenir vers notre œil. Et donc on comprend que ça va faire une seconde image de l'étoile qui sera une image fantôme, pourrait-on dire, mais en fait on aura aussi une infinité de spectres parce que la lumière peut tourner plusieurs fois autour du trou noir. Donc ça, on ne l'a pas encore observé aujourd'hui d'un point de vue expérimental, mais ce sont des choses qui sont pratiquement certaines.
Et quand deux trous noirs se rencontrent, ça fait trembler l'espace-temps et ça fait la une des journaux.
France Inter. C'est comme un ouragan dans le monde de la physique. Jusqu'ici, on avait une image de l'univers. On a maintenant le son qui va avec. La découverte des premières ondes gravitationnelles a donc été confirmée hier soir. C'est un détecteur américain qui les a mises en évidence. Et c'est une avancée majeure. Une déformation de l'espace-temps qui se propage comme une vague sur l'eau. L'onde devient un signal quasiment indétectable quand elle arrive sur Terre, Sophie Becherel.
Attention, c'est bref, 0,2 seconde. Ce que vous venez d'entendre, c'est la collision suivie de la fusion de deux trous noirs dans l'univers à 1 milliard d'années-lumière de nous. Le résultat de ce choc cataclysmique a beau faire 62 fois la masse du Soleil, autrement dit dégager une énergie colossale, à l'arrivée sur Terre c'est à peine audible. Eh bien c'est justement ce qui explique pourquoi il a fallu 100 ans pour mettre en évidence la prédiction d'Albert Einstein, les ondes gravitationnelles existent bel et bien.
Sophie Becherel dans le journal d'Hélène Philly le 11 février 2016. Alors ça, c'est une nouvelle qui marquera l'histoire des sciences, hein, Aurélien Barreau. Là encore, les ondes gravitationnelles, on les avait prédites et on les a détectées pour la première fois en 2016.
Vous m'autorisez à être un peu pénible, puisque ouais, c'est mon habitude. C'est pas tout à fait vrai, on les a détectés il y a 40 ans en réalité, on a même donné le prix Nobel pour ça. On les a détectés indirectement il y a 40 ans. Je crois que ce qui est nouveau ici, c'est moins le fait qu'on les ait détectés que le fait que maintenant nous pouvons les utiliser. Et là, en effet, je vous rejoins, c'est incontestablement un événement majeur, parce que nous disposons en quelque sorte d'un nouveau sens pour percevoir l'univers. C'est pourquoi je pense d'ailleurs que la métaphore journalistique de pouvoir écouter les trous noir est à la fois bienvenue et à la fois un peu dangereuse, parce que ce ne sont pas des ondes sonores, ce sont des ondes d'espace-temps. Et c'est pas un détail, parce que, vous savez, on a l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher, etc. Et c'est très difficile d'expliquer à un aveugle ce que c'est que voir, n'est-ce pas? C'est même presque probablement impossible. Et c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de détecter et d'utiliser ces petites ondes d'espace. Ce ne sont pas des ondes dans l'espace. Ouais. C'est l'espace lui-même, tel que décrit par Einstein, donc en tant qu'entité physique, qui se met à vibrer. Et on est peut-être un peu en train de réaliser quelque chose du projet de Platon. Vous savez, le philosophe Platon voulait qu'on pense le monde en tant que géomètre. Ouais. Et bien, c'est ce qu'on fait. On est en train de percevoir la géométrie de notre environnement et même les petites, les infimes fluctuations de cette géométrie. Ouais. Alors, non seulement c'est beau en tant que tel, parce qu'on comprend la nature, comme vous le faisiez remarquer, mais c'est aussi très utile parce que ce nouveau sens va nous permettre d'observer beaucoup de nouveaux phénomènes dans l'univers. Ouais. Et là, en effet, on a vu cette espèce de balai cataclysmique entre deux trous noirs et c'est à peine croyable parce que lors de la fusion de ces deux trous noirs, ce qu'on nomme donc la coalescence, l'énergie émise a été à peu près 50 fois plus importante que la totalité de l'énergie lumineuse émise par la totalité des étoiles de la totalité de l'univers visible.
Incroyable. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus alors, ces deux trous noirs qui se sont coalescés, comme vous
dites ? Eh bien, ces deux petits trous noirs sont devenus un gros trou noir.
D'accord.
Voilà. Donc, ils ont fusionné. Les singularités, c'est-à-dire les points centraux, se sont rapprochés jusqu'à ne former plus qu'une seule singularité. Et les horizons, c'est-à-dire les surfaces, pendant quelques fractions de secondes, ont eu une forme de haricot, en quelque sorte. Et puis, très rapidement, les ondes de gravité ont été émises, le système a relaxé et on a retrouvé une sphère parfaite.
On poursuit notre exploration des trous noirs avec Aurélien Barreau dans un instant. Si vous souhaitez lui adresser une question, profitez-en, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
Je m'appelle la lune, si je prie un peu.
C'était la lune, Barbagallo, dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
Je propose que l'information d'un trou noir ne soit pas stockée à l'intérieur, comme on l'attendait, mais à sa surface, dans son horizon, sous forme de supertranslation de cet horizon.
Le synthétiseur vocal du célèbre astrophysicien Stephen Hawking, qui nous a quittés le 14 mars dernier. Aurélien Barraud, auteur de « Au cœur des trous noirs » aux éditions Duno, est notre invité. Stephen Hawking a beaucoup travaillé sur les trous noirs. Qu'a-t-il apporté à leur compréhension ?
Stephen Hawking a eu le mérite de s'intéresser à la relativité générale à une époque où la plupart de ses collègues s'intéressaient à la mécanique quantique. Et il a fait plus que s'intéresser à la relativité générale, il s'est justement focalisé sur les intersections entre la relativité et la physique de l'infiniment petit. Et finalement, je dirais que sa contribution majeure, parmi d'autres, c'est peut-être bien sûr la fameuse évaporation des trous noirs, mais plus profondément que cela, c'est d'avoir compris et mis en exergue l'existence d'une tension apparemment irréconciliable entre les deux grandes théories de la physique. Mmh. On a d'une part la science du macrocosme qui nous montre cet espace qui se distend, qui se distord, qui est dynamique, et on a d'autre part la science du microcosme qui s'exprime en termes de probabilité, en termes de discontinuité, etc. Et ce que finalement Hawking a montré, c'est que les trous noirs étaient des objets très complexes qui imposaient à revoir en quelque sorte notre confort schizophrénique, mmh. c'est-à-dire ce confort qui nous permettait de choisir la théorie que l'on utilisait suivant les circonstances. Mmh. Eh bien non, a-t-il montré, les trous noirs requièrent l'utilisation simultanée de ces deux grands modèles. Comment les concilier ? Ça, il ne l'a pas trouvé, et à dire vrai, c'est aujourd'hui encore un sujet de recherche ouvert.
Ouais, on aura le temps d'y revenir, hein, à cette réconciliation de la physique de l'infiniment petit et de la physique de notre échelle, la physique d'Einstein, de la relativité générale. Vous avez évacué un peu d'un revers de main en disant, oui, la fameuse évaporation des trous noirs, mais pardon, on va quand même y revenir un petit peu, Aurélien Barraud, parce que on a commencé cette émission en disant que rien ne pouvait s'échapper de ces trous noirs, pas même la lumière, qu'ils engloutissaient tout. Et là, vous nous dites, il y a aussi des phénomènes d'évaporation. Alors, qu'est-ce qui ressort ? Qu'est-ce qui s'évapore d'un trou noir ?
Oui, ça, je trouve, c'est une belle leçon, finalement, d'humilité. C'est que les trous noirs, on se rend compte que, suivant la manière dont on les observe, ils se révèlent très différents. Moi, je les trouve très nietzschéens, en fait. Ils sont à la fois très apolliniens et très dionysiaques. Très apolliniens d'un point de vue classique, parce qu'en effet, ce sont des objets parfaitement noirs, extrêmement simples. D'ailleurs, c'est un peu la définition d'un trou noir. Un trou noir, c'est un objet purement géométrique. Et une planète, elle a des aspérités, des montagnes, des lacs, des rivières, même le soleil, même une étoile. Ce sont des particules élémentaires à très grande température. Le trou noir, c'est un objet purement géométrique. On ne peut pas faire plus simple. Là, c'est vraiment, vous voyez, l'ordre d'Apollon. Mais d'un autre côté, grâce à Hawking, on a compris que quand on a des petits trous noirs, quand la mécanique quantique s'invite dans la partie, ça devient très dionysiaque, au sens où, en effet, tout ce qu'on vient d'apprendre s'avère faux, comme souvent en science, quand on regarde de plus près, et on se rend compte qu'il n'est pas impossible que la matière ressorte d'un trou noir, ressorte sous la forme, une forme qui peut même devenir explosive, si le trou noir est de faible masse. Et en ce sens-là, les très petits trous noirs deviendraient de véritables bombes qui émettent une quantité colossale de rayonnement dans notre environnement. Alors jusqu'à maintenant, nous n'avons pas observé, donc ça reste un phénomène qui est essentiellement théorique, mais même en tant que phénomène théorique, il est extrêmement intéressant parce qu'il nous oblige en quelque sorte à revoir notre copie et à mieux comprendre les lois de la physique fondamentale.
Ouais, et puis on a vu tout à l'heure que les phénomènes théoriques pouvaient ensuite être découverts.
Oui, voilà. Et puis c'est toute cette lignée de ce qu'on pourrait appeler les expériences de pensée, ouais. Que je trouve très belle parce qu'elles ne coûtent rien, mais ce sont parfois elles qui induisent les changements de paradigme, les révolutions et donc la beauté finalement de la pensée scientifique.
Ce que je retiens aussi, c'est qu'il y en a toutes les tailles de ces trous noirs, parce qu'on était sur du gigantisme, hein, on parle de trous noirs supermassifs, notamment il y en a un, je crois, au centre de notre galaxie, la Voie lactée, on Absolument. Trouve un trou noir gigantesque, et maintenant vous nous parlez de micro-trous noirs. Alors,
c'est d'ailleurs une autre définition possible des trous noirs, ce sont vraisemblablement les seuls objets physiques qui peuvent exister à n'importe quelle taille et n'importe quelle masse. Il y a un être humain, il fait entre quelques dizaines et quelques centaines de kilos. C'est très restreint comme gamme. Une planète, une étoile a une gamme d'existence. Les trous noirs peuvent a priori exister à n'importe quelle taille ou masse, et ça, c'est aussi une de leurs caractéristiques. Alors en effet, on sait qu'il existe des trous noirs dits stellaires, qui proviennent de l'implosion d'étoiles et dont la masse est de quelques fois la masse du Soleil. On sait qu'il existe des trous noirs supermassifs, comme on les trouve au centre des galaxies et dont la masse se compte en millions ou milliards de masses solaires. Ouais. Sagittarius A star, qui est le trou noir central de notre Voie lactée, de notre petit îlot d'univers, a une masse d'environ 4 millions de fois la masse du Soleil. Et on pense, mais là c'est hypothétique, qu'il pourrait exister des trous noirs très légers, qu'on appelle trous noirs primordiaux, et qui pourraient être aussi légers qu'une poussière. Nous ne les avons pas encore trouvés.
Celui qui est au centre de notre galaxie, comment se fait-il qu'il n'aspire pas toute la galaxie et qu'on ne soit pas tous recroquevillés à l'intérieur de ce trou noir ?
Oui, alors ça c'est le fameux effet Walt Disney, comme ça, du trou noir gargantuesque, oui, ou pantagruélique, comme ça, cette gorge ouverte sur un univers qui l'entoure. Ça n'existe pas en fait, parce que la gravité a cette bonne idée, dont nos politiques devraient d'ailleurs s'inspirer, d'être démocratique. C'est-à-dire que nous sommes tous logés aux mêmes enseignes du point de vue de la gravité. Et si le Soleil devenait soudainement un trou noir, alors d'abord pendant 8 minutes il ne se passerait rien, c'est le temps que les interactions viennent jusqu'à la Terre, et ensuite eh bien, nous aurions froid naturellement et nous mourrions de froid, mais la Terre continuerait à tourner autour exactement comme s'il s'agissait du Soleil, parce que ce qui va dicter les trajectoires c'est la masse. Et donc que la masse soit issue d'une étoile ou d'un trou noir, l'orbite de la Terre restera exactement la même, elliptique et stable. Mmh. Et donc pour répondre à votre question, eh bien, toutes les étoiles de la galaxie sont en orbite stable autour du trou noir central et il n'y a aucune raison qu'elles tombent dedans, elles sont attirées, mais que ce soit un trou noir ou une botte de carottes, ça ne change rien.
Autrement dit, nous tournons autour de ce trou noir comme la Lune nous tourne autour sans s'écraser sur nous.
Exactement.
À bonne distance.
Donc quiconque entre dans le trou noir ne peut pas en sortir, mais finalement nous n'avons aucune raison d'entrer dedans, sauf si nous le décidons ou si nous avons une orbite extraordinairement particulière.
Il y a déjà eu, avant même que l'émission commence, des questions d'auditeurs pour vous, celle de Jean par exemple, qui demande à quelle distance se situe le trou noir le plus proche de nous. Est-ce qu'on le sait ça ?
Alors, il y a deux questions. Il y a est-ce qu'on le sait et est-ce que je le sais ? C'est pas exactement la même question. La réponse est que c'est un peu difficile de cartographier les trous noirs parce que ils sont très petits. Déjà, ils ont une taille physique qui est très petite. Un trou noir stellaire, c'est quelques kilomètres. Et ils sont noirs, comme leur nom l'indique. Et donc, leur taille angulaire, c'est-à-dire l'aspect sous lequel on les voit depuis la Terre, est extrêmement fin. Donc, on pense qu'il existe quelques centaines de millions de trous noirs dans notre galaxie, et on n'en connaît qu'une dizaine à l'heure actuelle. Donc, on a cartographié qu'une infime partie des trous noirs parce qu'ils sont difficiles à repérer. Bon, on peut estimer que le trou noir le plus proche se trouve à quelques années-lumière. Donc, ce sont des distances qui sont très petites par rapport à la taille de l'univers, mais qui sont quand même très grandes, évidemment, par rapport à celles du système solaire.
Donc, il y en a beaucoup dans notre galaxie.
Ce sont des objets banals.
Ouais, il y a celui qui est au centre, et puis après, il y en a plein qui sont...
Oui, bien sûr, parce que toutes les étoiles très massives ont donné des trous noirs, et certaines d'entre elles, la plupart d'entre elles même, ont déjà explosé. Donc, on peut vraiment conjecturer des centaines de millions, et en fait, depuis l'observation des ondes gravitationnelles, on peut même supposer qu'il y en a beaucoup plus.
Ouais. Alors, il y a quand même une question. C'est toute cette matière, même si on a compris que les trous noirs n'étaient pas des gouffres sans fin, et qu'ils n'aspiraient pas tout. Mais il y a une partie, quand même, à portée de trou noir qui se retrouve irrémédiablement attiré par le centre du trou noir. Qu'est-ce que devient toute cette matière ? Où va-t-elle ? Dans quel état se trouve-t-elle ?
Oui, alors là, bien sûr, il va falloir croire notre théorie, puisque comme l'expliquait Hubert Reeves, je crois, dans un de vos extraits, quand bien même nous déciderions d'aller voir ce qui se passe, nous ne pourrions pas revenir vers le laboratoire pour en informer nos collègues. Ouais. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de croire nos calculs, mais finalement, on peut le faire à bon droit, parce que nous sommes dans des circonstances où la théorie est relativement bien contrôlée. Donc on a toutes les raisons de croire que la théorie d'Einstein dit vrai. Alors ce qui se passe lorsqu'une particule entre à l'intérieur d'un trou noir, finalement, c'est que elle n'a plus le choix. Voilà. Elle va tomber sur la singularité centrale, mais elle va y tomber de façon absolument irrémédiable. Et quoi que vous fassiez, finalement, vous ne pouvez que précipiter votre chute. Alors, c'est un peu contre-intuitif. Imaginez que vous êtes dans votre vaisseau spatial, vous êtes entré dans un trou noir, et vous vous dites, bon, très bien, je vais mourir, je le sais, puisque la théorie me l'apprend, mais je vais quand même allumer mon moteur de fusée avec la flamme dirigée vers le centre pour ralentir un peu la chute. Eh ben non. En fait, on ne ferait que l'accélérer. La nature fait bien les choses, elle maximise le temps de vie, et quoi quoi que vous fassiez, vous allez disparaître plus rapidement. Donc ce qui va vraisemblablement se passer, c'est que la matière, au bout d'un temps fini, va venir s'effondrer sur la singularité. Le cours de cette matière, ce qu'on appelle la géodésique, s'interrompt, parce que pour la matière, le temps n'existe plus lorsqu'elle arrive sur la singularité. Et l'horizon du trou noir grandit un petit peu, puisque c'est un des théorèmes de Hawking d'ailleurs, l'air ne peut pas diminuer.
Oui, alors il y a un mot que vous avez employé plusieurs fois, la singularité. Ça c'est un peu la feuille de vigne. Hein. On cache ce qu'on ne sait pas avec la singularité. En fait, la singularité, c'est l'endroit où, en un point, on a toute la masse qui est concentrée. On n'explique pas trop comment physiquement c'est possible. On appelle ça la singularité.
Oui, c'est un très beau mot d'ailleurs, n'est-ce pas ? Singularité, on le retrouve en philosophie, chez Gilles Deleuze par exemple. Il y a beaucoup de séries qui tournent autour du concept de singularité. Moi, je trouve que même poétiquement, c'est un substantif qui est très fort. Et cette singularité, alors, la feuille de vigne, c'est pas exactement la singularité, c'est plutôt l'horizon qui est autour. Et Roger Penrose, le très grand physicien et mathématicien, a en effet conjecturé que les singularités des objets tellement détestables, ou peut-être tellement impressionnant ou peut-être ahurissant finalement, que dès que la nature crée une singularité, elle l'entoure d'un horizon afin que nous ne puissions pas l'observer. Alors, la singularité, la meilleure manière de la définir, pour être clair, c'est que c'est un lieu ou un temps, parce qu'en effet, la distinction ici devient un peu complexe, où les grandeurs physiques deviennent infinies. La courbure est infinie, la densité est infinie, etc. Donc, la question qui se pose est la suivante. S'agit-il véritablement d'une pathologie de l'espace-temps, ou s'agit-il d'une pathologie de la théorie qui décrit l'espace-temps ? Bien sûr, je pencherai pour la seconde hypothèse, parce que, vous savez, la physique n'est pas une clinique. Oui. L'espace-temps se porte très bien sur nous. Oui. Donc je crois plutôt que la singularité, en fait, est une manière pour la théorie de dire « je ne fonctionne plus oui. et il faut trouver mieux ».
Donc la singularité, c'est ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on n'a pas encore compris, qu'on n'arrive pas à décrire avec nos outils.
Je pense que c'est la meilleure manière, en effet, de le résumer.
De décrire cette singularité. Alors on parle aussi, d'ailleurs, de singularité, je ne sais pas si c'est la même, mais quand on parle du Big Bang, quand on remonte à l'origine de l'univers, il y a un moment où on ne sait plus ce qu'il y avait exactement, comment c'est possible qu'entre ce point, toute la matière qui compose l'univers de rien soit sortie de ce point. Et alors certains astrophysiciens disent, n'excluent pas en tout cas, qu'il serait possible que l'univers soit né d'un trou noir. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux, Jean-Pierre Luminet.
C'est assez tentant d'imaginer que finalement notre univers à nous, notre Big Bang, c'est la sortie d'un trou de ver. D'un trou noir qui se serait formé dans la période d'avant le Big Bang. Donc ça fait partie de quelques-unes des hypothèses qui ont été étudiées par quelques chercheurs, que notre Big Bang lui-même pourrait être issu finalement d'un trou noir.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Aurélien Barreau ? Nous serions, notre univers, tout ce que nous sommes serait le sorti d'un trou noir.
Oui, ces idées sont tout à fait intéressantes parce que, en effet, l'origine de l'univers n'est pas très différente du centre d'un trou noir. C'est pas exactement la même chose mathématiquement, mais il y a des analogies et il y a très fort à parier que quand nous aurons compris l'un, nous aurons compris l'autre. Donc comprendre les trous noirs ou comprendre le Big Bang, enfin comprendre le centre des trous noirs ou comprendre l'origine du cosmos, c'est vraisemblablement la même question. Et il est vrai que la structure interne d'un trou noir ressemble un peu à la structure d'un univers. Par exemple, une question très intéressante est quelle est la taille d'un trou noir ? Je vous ai dit tout à l'heure, pour un trou noir stellaire, c'est de l'ordre de quelques kilomètres. Oui, mais attention, ça c'est la taille mesurée de l'extérieur. Mais si vous attendez suffisamment longtemps, parce qu'il se trouve que la structure interne d'un trou noir est dynamique, eh bien le volume à l'intérieur d'un trou noir peut être plus grand que l'univers observable. Et c'est compatible du point de vue de la relativité. Ça fait 2 km vu de l'extérieur, mais ça fait des milliards d'années-lumière vu depuis l'intérieur. Donc cette idée que les trous noirs pourraient être des pouponnières en quelque sorte d'univers est une idée qui n'est pas aujourd'hui avérée d'un point de vue expérimental, mais qui est relativement raisonnable d'un point de vue théorique.
On poursuit notre exploration des trous noirs en compagnie d'Aurélien Barreau, le temps d'un bivouac cosmique sur France Inter.
You're gonna get gamble. May as well be on love.
Found the one.
May have had something before.
Found the one.
But now you can't get enough. Before it's all said and done, I found the one. Myself waiting in line.
Found the one.
Found so many ways.
Found the one.
Of wasting my time. No more races to run. Found the one. Now I follow my heart. Wherever the road ends.
Found the one.
Most people you
Found the One, c'était Ben Harper et Charlie Musselwhite sur France Inter.
Une pour toi, une pour moi. Quand je serai en hyper-sommeil là-haut, ou quand j'irai à la vitesse de la lumière, ou près d'un trou noir, le temps va changer pour moi. Il va s'écouler plus lentement. Quand je reviendrai, on comparera.
Le temps passera pas pareil pour nous deux.
C'est ça. Tu vois, d'ici à ce que je rentre, peut-être qu'on aura le même âge. Toi et moi. Ouais. Imagine un peu ça.
Extrait du film Interstellar, Aurélien Barreau, auteur de Au cœur des trous noirs aux éditions Dunod. Vous le dites dans votre ouvrage justement, l'espace-temps devient fou. Au niveau des trous noirs, expliquez-nous ça. Pourquoi, quand on navigue à proximité de ces astres, le temps ne s'écoule plus du tout de la même façon ?
Oui, c'est peut-être en réalité d'ailleurs notre esprit qui devient fou lorsqu'il tente d'appréhender ce qui le dépasse. Et c'est aussi ça la beauté de ces investigations scientifiques et poétiques qui se rejoignent ici. Bah, y a plusieurs manières de le voir. D'abord, c'est vrai, en effet, à l'extérieur du trou noir, si vous vous approchez très près d'un trou noir, et que vous revenez ensuite vers le monde extérieur, tant que vous n'êtes pas entré en son sein, ceci est envisageable, eh bien, vous avez véritablement voyagé dans le futur, au sens absolument littéral et non métaphorique. Si, par exemple, vous avez passé 10 minutes au voisinage d'un trou noir, il peut s'être écoulé 1 milliard d'années dans le reste de l'univers, et quand vous revenez sur Terre, eh bien, effectivement, il ne reste plus rien. L'humanité a évidemment détruit depuis longtemps ce qu'était notre belle planète.
Donc là, c'est encore une fois un voyage dans le temps sans retour, c'est-à-dire qu'on voyage dans le futur,
oui, oui,
mais
oui.
On ne pourra pas revenir à... Tous voilà, nos
sauf
proches,
quelques,
on ne les retrouve plus. Hein,
quelques après. Étrangetés extrêmement exotiques dues au trou de verre et au pont d'Einstein-Rosen, auquel je ne crois pas beaucoup, les voyages, en effet, ne sont qu'à sens unique et vers le futur. Mais ceux-là, en revanche, sont très fiables. Là, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas spéculatif. Bien sûr, on ne l'a pas véritablement fait avec un trou noir, mais on le voit déjà avec les corps massifs moins extrêmes que les trous noirs. Si vous vous approchez d'un tel corps et que vous revenez ensuite vers l'extérieur, vous avez littéralement voyagé dans le futur. Ouais. Donc, en effet, il suffirait que vos parents aillent voyager près d'un trou noir et quand ils reviennent, eh bien, vous êtes plus vieux que vos parents. Ce sont des choses tout à fait réelles. Ça, c'est la partie facile. C'est l'extérieur. Quand vous allez à l'intérieur d'un trou noir, alors là, effectivement, ça devient plus complexe parce que, comme vous le mentionniez en introduction, le temps devient espace et l'espace devient temps. Alors, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr de savoir moi-même vraiment ce que ça veut dire. Mais on peut donner une image. Quelle est la différence entre le temps et l'espace au quotidien ? Il y a une seule différence. C'est que dans l'espace, je peux aller en avant et en arrière. Dans le temps, je ne peux pas aller en arrière. C'est la seule différence. Et si vous voulez, dans un trou noir, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas aller spatialement en arrière. Le tapis roulant d'espace, en quelque sorte, va tellement vite vers la singularité que même si je marche en arrière, même si la lumière marche en arrière, en réalité, elle va en avant. Et donc, de façon un peu métaphorique cette fois, de la même manière que le temps s'écoule sans retour possible dans notre monde, c'est l'espace qui s'écoule sans retour en arrière possible à l'intérieur d'un trou noir.
On comprend hein, qu'avec de tels objets célestes, les cinéastes se soient emparés de ces notions. C'est le moment de retrouver Jérémy Querené, fidèle à son poste pour sa chronique en partenariat avec le CNES, l'agence spatiale française. Il nous propose, comme chaque semaine, un petit voyage entre science et fiction.
Non, ça va pas du tout,
coupez! Arrête ton cinéma.
Vous vous intéressez aux trous noirs?
Ils sont là, même si parfois ils sont difficiles à repérer au cinéma. Pas toujours visualisés, parfois mal nommés, souvent confondus avec les trous de ver, qui ont quand même l'avantage de pouvoir proposer des voyages dans l'espace et dans le temps. Les trous noirs fascinent les cinéastes de science-fiction, même si finalement peu ont eu le courage de les mettre en scène.
Que se passe-t-il, Vincent?
Le plus vaste des trous noirs que j'ai jamais approché, monsieur Pizer.
Jetons un coup d'œil sur l'hologramme.
L'idée d'un corps duquel la lumière ne pourrait s'échapper ne date pas d'hier, du 18e siècle. Ensuite, c'est surtout à partir des travaux d'Einstein que l'idée de trou noir a fait son chemin. Mais c'est seulement dans les années 60 que le nom de trou noir se diffuse. 1967, plus précisément, quand John Wheeler l'utilise dans un article. Et 1967, c'est aussi l'année de la première saison de Star Trek, dans laquelle, dans l'épisode 19, l'Enterprise est propulsée dans le passé après avoir approché un trou noir que l'on ne voit pas et qui ne s'appelle pas encore tout à fait comme ça.
Nous faisions route vers la base spatiale numéro 9 pour ravitaillement quand une étoile noire de forte gravité a commencé à nous attirer vers elle.
10 ans plus tard, les trous noirs sont beaucoup plus connus mais toujours aussi fascinants et mystérieux pour les cinéastes. De façon surprenante, c'est Disney qui produit un film sur le sujet en 1979, intitulé tout simplement « Le trou noir ». Ce film semble avoir la folle ambition de faire la synthèse entre 2001, l'Odyssée de l'espace, Star Wars et Mickey. C'est une bizarrerie kitsch et mal foutue qui est surtout inspirée de 20 milieux sous les mers, le vaisseau spatial ayant remplacé le sous-marin et le trou noir à la place des abysses. Mais c'est la même idée, celle d'une ultime frontière à laquelle l'humain est confronté, celle du grand inconnu dans lequel seul un héros ou un fou pourrait plonger.
Chaque fois que je cadre un de ces trucs, je m'attends à voir un homme tout rouge avec des cornes et une petite fourche.
C'est un monstre, je suis d'accord.
Une déchirure dans la structure même de l'espace et du temps, et je viens de capter quelque chose d'intéressant.
Voyons ça.
Par définition, un trou noir n'est pas tellement visible. En ce sens, le générique du film de Disney est assez habile puisqu'il fait écho à la représentation schématique des trous noirs la plus connue à l'époque, des lignes vertes formant un quadrillage en 2 dimensions avec en son centre un trou qui nous plonge dans une 3e dimension. Mais ensuite, dans le film, on va quand même nous montrer une représentation censée être réelle des choses et du trou noir, et ça sera une sorte de siphon cotonneux et multicolore.
Comment ne pas être fasciné par la force la plus inexorable de l'univers?
Ces longs tunnels obscurs vers nulle part.
Ou quelque part.
La dernière et plus marquante apparition d'un trou noir au cinéma date de 2014 dans le film Interstellar. Premier mérite du film, on fait bien la part des choses entre le trou de ver que le vaisseau emprunte pour changer de galaxie et le trou noir nommé Gargantua. Le physicien Kip Thorne a travaillé sur le film, notamment sur la partie visualisation du trou noir, qui ne ressemble plus effectivement à ceux que nous avions l'habitude de voir au cinéma, puisqu'il est cette fois-ci entouré d'un disque gazeux. La sortie du film s'est d'ailleurs accompagnée d'un argument choc, d'une modélisation inédite et fidèle du trou noir, fruit de nombreux calculs réalisés exprès pour le film. Or depuis, plusieurs physiciens ont quand même dénoncé des erreurs, des invraisemblances de la forme de ce trou noir. Et Jean-Pierre Luminet a déclaré avoir travaillé sur le même genre de représentation bien avant la sortie du film, en 1979. Mais quoi qu'il en soit, Interstellar a réussi à accompagner ce changement de représentation des trous noirs. Le cinéma, forcément, a besoin de montrer les phénomènes physiques. Alors ça peut poser de nombreuses questions, ça peut diffuser de fausses idées, mais on le voit avec cette histoire de trou noir, rien n'est figé, tout peut évoluer, même au cinéma.
Vous voulez dire qu'on va dans le trou noir, commandant ?
Oui.
Merci Jérémy Querené et à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver la chronique de Jérémy et d'autres infos complémentaires sur le site du CNES, l'agence spatiale française dont nous sommes partenaires, cnes.fr. Aurélien Barraud, le trou noir dans Interstellar dont parlait Jérémy, vous en pensez quoi ? Il est réaliste ?
assez bien, vous m'interrogez sur le trou noir, parce que le film lui-même, je ne l'ai pas du tout aimé, mais pour des raisons vraiment artistiques. Donc là, je vais passer pour un intello emmerdeur, mais on le sait déjà. En revanche, le trou noir, oui, est bien fait. La représentation extérieure du trou noir est même évidemment très bien faite. Enfin, avec quelques réserves quand même, parce que c'est un film, c'est pas un reportage National Geographic. Oui. Et un film, c'est pas seulement la précision. Et dans une certaine mesure, dans un film, la précision peut devenir contre-productrice d'ailleurs.
Ah. Alors plus généralement, vous vous intéressez à la science-fiction. Je crois que vous êtes même conseiller sur un film qui est pas encore sorti. Expliquez-nous ça.
Oui, alors avec mon amie la réalisatrice Claire Denis, nous travaillons sur un long métrage. Enfin, c'est elle qui est aux commandes, naturellement, qui se nommera High Life et qui décrira comme ça l'épopée d'un ensemble d'hommes et de femmes dans l'espace et qui rencontreront en effet un certain nombre de trous noirs. Bon, c'est beaucoup plus une réflexion sur le huis clos et sur les interactions humaines que sur la relativité générale, naturellement. Mais nous nous sommes laissés un peu guider par les lois de la physique également.
D'accord. Sans le faire trop, hein, vous avez dit que ça pouvait être contre-productif de...
Rassurez-vous, on sera très très loin du trop. Et probablement même, en termes d'effets spéciaux, nous allons plutôt que du numérique choisir, peut-être, je sais pas, de filmer des tasses de café ou des choses comme ça. Parce qu'au cinéma, il faut qu'il y ait une matière quand même. C'est important.
Alors, vous aimez bien la fiction. D'ailleurs, dans votre livre, Au cœur des trous noirs, paru chez Dunod, il y a une part de fiction. Hein. C'est une discussion fictive entre deux personnages au nom assez étrange, hein, Ekat et Elio Gabal. Ça a déjà été joué en pièce de théâtre. Je me suis dit que ça pourrait fonctionner en pièce de théâtre.
Ah ouais. Mais je vous vois très bien en metteur en scène. Donc, cher Daniel, je vous invite à prendre les choses en main.
Vous ne savez pas à quoi vous vous engagez. Cette idée de mettre les choses un peu en scène, ça vous plaît?
Oui, écoutez, bon, et bien sûr, ça peut être un peu publicitaire pour rendre les choses agréables, mais je crois que c'est important aussi de rappeler que toute science est quelque part une science humaine. Bien sûr, la physique tente de décrire une sorte d'intersubjectivité du réel. Bien sûr, toutes les propositions ne se valent pas, etc. Tout cela, on le sait. Mais en même temps, il y a aussi des postures, théorie des cordes ou gravité quantique à boucle, etc. qui relèvent quand même de choix qui sont en partie philosophiques, en partie esthétiques. Et je pense que c'est important de ne pas le cacher parce qu'il n'y a simplement pas lieu d'en avoir honte.
Allez, vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi l'étude des trous noirs pourrait permettre de faire une avancée majeure en sciences physiques et puis vous répondrez aux questions des auditeurs du temps d'un bivouac.
J'ai peur de couver quelque chose, disait la terre à l'archange du Père éternel. On m'a mis des hommes sur le dos et ça me démange, disait la terre. Pitié pour le petit personnel, dites au grand patron qui se dérange, j'ai des misères. J'ai peur de la sale migraine. Je tourne encore mais je tourne à la catastrophe, disait la terre. Alors que tous les supérieurs se ramènent et les hommes chantaient, on a mangé des tonnes de niant, picolé des tonnes de tonneaux. Combien d'orgasmes on se demande a-t-on atteint. Lise et leur riserie, si on veut l'être aussi, on voit tout ce qu'il faut pour ça ici. Combien de guerres brûlantes en tout a-t-on éteint. Qu'est-ce qui t'arrive, petite, disait le père à la terre. C'est un léger malaise, ma belle. Tous ces brigands aveugles et sourds faiseurs d'histoire, princes et bergères. Ce sont nos enfants, je te le rappelle. Moi c'est les gambettes qui me démangent, disait le père. Dansons et oublie ta sale migraine. La chance qu'on a de valser comme ça à l'infini, là dans les airs. Allez que toutes les planètes se ramènent. Et les hommes chantaient. On a mangé des tonnes de viande, picolé des tonnes de tonneaux. Combien d'orgasmes on se demande a-t-on atteint. C'est leur riserie, si on veut l'être aussi. On fera tout ce qu'il faut pour ça ici. Combien de guerres brûlantes dans tout a-t-on éteint. C'est leur riserie, si on veut l'être aussi. On fera tout ce qu'il faut pour ça ici. Combien de guerres brûlantes dans tout a-t-on éteint.
C'était Michel Jonas, La Terre et le Père sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Physique quantique, un bilan mitigé. Alors en effet, la conférence de ce soir va tenter de formuler une synthèse définitive de l'héritage que nous a laissé cette bien ambitieuse théorie quantique. A-t-elle réellement réussi à déchiffrer l'infiniment petit ? Nous a-t-elle donné les clés de l'énigme atomique ? Physique quantique, révolution ou mascarade ?
Il est temps de poser la question. C'était un extrait d'un sketch d'Alexandre Astier. Nous sommes toujours avec l'astrophysicien Aurélien Barreau. Les trous noirs constituent pour les scientifiques d'excellents modèles pour tenter de faire avancer les théories de la physique et aussi les théories de la physique quantique dont Alexandre Astier se demandait s'il ne s'agissait pas d'une vaste mascarade.
Ah, mais le masque parfois dit quelque chose de très fondamental justement, parce que choisir le masque, c'est réécrire le réel. Alors oui, les trous noirs sont vraiment des lieux idéaux pour se poser cette question. Comme nous le disions tout à l'heure, on a deux grandes théories, la relativité et la physique quantique. Aucune des deux, bien sûr, n'est une imposture. Elles fonctionnent très bien, mais on ne sait pas comment les concilier. Et les trous noirs sont des laboratoires d'études extraordinairement privilégiés pour tenter d'aller plus loin dans cette direction qui est véritablement un graal de la physique depuis près d'un siècle, qu'on appelle gravitation. Quantique. On ne sait pas bien où aller, on manque de guide observationnel, mais on est aujourd'hui en train d'élaborer des postures théoriques de plus en plus convaincantes, et en effet, l'image est en train de se redéfinir. C'est-à-dire que peut-être, en réalité, les trous noirs seraient-ils des astres en rebond, peut-être en fait ne seraient-ils que transitivement noirs, et à la manière un peu d'une balle comme ça, qui se contracte sur elle-même, ensuite deviendraient-ils des trous blancs. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. De même d'ailleurs que notre cosmos lui-même doit-il peut-être être pensé comme ayant vécu non pas un Big Bang, c'est-à-dire cette espèce de singularité comme ça de création ex nihilo qui dépasse l'entendement que nous évoquions tout à l'heure, mais peut-être plutôt a-t-il vécu une phase de contraction qui aurait précédé la phase actuelle d'expansion, ce qu'on appelle un Big Bounce, un grand rebond. Alors à la différence de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, on entre ici dans la science spéculative. Ouais. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien, mais on a quand même des indications théoriques qui nous laissent croire que ce n'est pas tout à fait n'importe quoi.
Ouais. Alors il y a une avalanche de questions pour vous sur les trous noirs, apparemment vous passionnez nos auditeurs, en tout cas une partie. Il y a Guillaume qui vous demande, trous noirs sphériques, quid de l'image de Fontaine, lien d'énergie vers d'autres univers, vous demande-t-il.
Oui, vous savez, le poète Henri Michaud disait, vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a dans le ciel. Voilà, et les trous noirs, ça fait partie de ces étrangetés incroyables du ciel. Alors ce sont en effet des sphères, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ne ressemblent pas à des entonnoirs. Peut-être quand ils tournent, on appelle ça alors des trous noirs de Kerr, pourraient-ils mener vers d'autres univers ou d'autres régions de notre univers, par ce qu'on appelle des trous de ver, mais il faut quand même rester serein et calme. Ce sont des solutions théoriques possibles, je ne parierais pas très cher sur leur existence réelle.
Léo qui vous demande, on parlait de ces ondes gravitationnelles que l'on a captées lorsque deux trous noirs sont entrés en collision. Alors il vous demande, l'onde gravitationnelle captée sera-t-elle à nouveau détectable ou désormais définitivement disparue ? Et qu'en est-il des ondes gravitationnelles qui dateraient du Big Bang dont Einstein soupçonnait l'existence ?
Oui, alors l'onde gravitationnelle n'est pas définitivement perdue, mais elle est perdue pour nous. Elle a passé la Terre, mais une civilisation extraterrestre très lointaine la détectera peut-être dans un million d'années, ça c'est tout à fait possible. Quant à ces ondes gravitationnelles dites primordiales, c'est une excellente question. Elles sont aujourd'hui au cœur de la recherche. Nous tentons de les mettre en évidence et elles seraient extraordinairement intéressantes parce qu'elles constitueraient une sorte d'écho du Big Bang qui nous permettrait de nous rapprocher de l'instant originel de bien davantage que ce que nous savons faire jusqu'à maintenant et peut-être même d'ailleurs de sonder cette fameuse gravitation quantique. Donc en effet, elles sont dans le collimateur et j'espère que dans 10 ou 20 ans, nous les aurons détectées.
Question de Xavier, sait-on créer un trou noir ?
Alors, il y a eu quelques spéculations autour de notre grand accélérateur LHC, vous savez, au CERN, qui a découvert le fameux boson de Higgs. Nous avons espéré pour certains, craint pour d'autres, qu'il pourrait façonner de petits trous noirs. Hélas, il n'en fut rien. Je dis hélas, parce que ça aurait été extraordinairement intéressant du point de vue scientifique. Et en réalité, ce n'était pas dangereux, parce que ces trous noirs très légers se seraient évaporés, conséquemment à l'effet Hawking que nous avons évoqué tout à l'heure.
Oui, parce qu'effectivement, il y avait eu cette inquiétude, mais comme souvent, des rumeurs sur la toile un peu infondée de gens qui disaient le LHC va créer une sorte de trou noir dans lequel nous allons tous disparaître.
Alors c'est très facile de contrer cette rumeur. D'abord, les théories qui prévoyaient l'existence de ces trous noirs sont des théories très exotiques. La relativité ne le prévoit pas et en effet, nous n'avons pas observé. Mais il y a un argument bien meilleur que ça, c'est que ce qui se passe dans l'accélérateur, la nature le fait déjà. Nous sommes en permanence bombardés par des particules cosmiques qui ont une énergie plus grande que celle du LHC. Si donc il y avait création d'objets létaux, nous aurions déjà disparu.
Voilà, c'est une belle démonstration par l'absurde, du coup.
Exactement.
Philippe vous demande, est-ce que l'on peut connaître l'âge d'un trou noir ?
C'est un peu difficile en le voyant de l'extérieur parce que justement un trou noir est un objet sans structure, c'est un objet très lisse, c'est un objet qui semble, et c'est d'ailleurs un des paradoxes de la physique, avoir perdu l'information sur ce qui l'a formé. Donc en l'observant tel que, il est très difficile de savoir ou d'inférer son âge, précisément parce qu'il ne vieillit pas, précisément parce qu'il est purement géométrique.
Quand notre soleil disparaîtra, il deviendra trou noir, il laissera place
notre
à un trou
noir ?
Notre
soleil est une petite étoile, ouais. Il n'est donc pas suffisamment massif pour créer un trou noir, il deviendra une naine blanche. Les étoiles plus massives deviendront des étoiles à neutrons et les étoiles encore plus massives deviendront des trous noirs.
Swan vous dit si le temps s'arrête dans le centre d'un trou noir, hein, c'est ce que vous nous avez dit, hein, Aurélien, il vous a bien écouté, Swan, alors ce dernier ne devrait pas se déplacer si le temps s'y est arrêté ou il ne pourrait bouger entre deux trous noirs. Voilà, c'est l'idée. Hein. Je ne comprends pas toute la question, mais en tout cas, l'idée, c'est si le temps s'y arrête, il ne devrait plus bouger, il devrait être immobile.
Oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que là, il faut commencer à rentrer dans le vif de la relativité générale, il faut définir proprement ce qu'est le temps, mais qu'on se rassure, l'objet ne se met pas à disparaître. Quand on dit que le temps s'arrête, en fait, ce qu'on signifie, c'est que les géodésiques, c'est-à-dire les trajectoires des particules, ne sont pas complètes. Mais ça ne signifie pas que l'objet trou noir lui-même disparaît ou ne peut pas se mouvoir. Et c'est vrai que là, on voit les limites de l'exercice. On est obligé de parler avec les mots dont nous sommes coutumiers, mais nous les affublons d'une autre signification. Et effectivement, il faut être un peu prudent.
Nathalie qui vous demande, ce sera notre dernière question, se pourrait-il que nous soyons nous-mêmes au cœur d'un trou noir ? Vous posez d'ailleurs cette question à la fin de votre ouvrage « Au cœur des trous noirs » chez Dunod.
Oui, c'est tout à fait possible, comme nous le disions tout à l'heure. Les trous noirs pourraient être eux-mêmes des univers en gestation. Il pourrait même exister une structure gigogne, c'est-à-dire en poupée russe de trous noirs imbriqués les uns dans les autres, représentant chacun un univers du point de vue de ses habitants propres, avec peut-être même une sorte de sélection darwinienne des univers à l'instar de ce qui a lieu dans les sciences du vivant. C'est simplement trop tôt pour le dire fermement. Je crois qu'il faut faire preuve de circonspection, un peu d'audace, mais raison gardée et beaucoup d'humilité.
Il y a un projet hein, assez récent pour voir un peu plus nettement un trou noir. Comment on espère s'y prendre ?
Oui, alors l'idée est simple. Comme les trous noirs sont lointains, petits et sombres, il faut des télescopes énormes. Ouais. Et on ne peut pas faire un télescope qui a la taille de la Terre. On dévaste suffisamment comme ça notre planète. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est faire fonctionner en réseau plein de petits télescopes à la surface de la Terre et simuler en quelque sorte un télescope géant. C'est ce qu'on appelle l'interférométrie. Et par cette technique, on peut espérer dans quelques années, donc c'est vraiment du court terme, obtenir la première image fiable du trou noir qui se trouvera au centre de notre galaxie. Et je dirais que c'est peut-être pas un très grand pas scientifique, mais quand même, poétiquement, métaphoriquement, plastiquement, moi je crois que ça sera très très émouvant.
Ouais, ah super. Merci Aurélien Barraud. Je rappelle le titre de votre livre, Au cœur des trous noirs, aux éditions Dunod. Et je signale aussi un autre de vos ouvrages tout aussi passionnant, dans lequel vous consacrez un chapitre aux trous noirs. Le livre s'intitule Big Bang et au-delà, balade en cosmologie. C'est également paru chez Dunod. Après avoir naviguer au bord des trous noirs, nous allons naviguer pour éviter les marées noires. Bon, c'est la seule transition que j'ai trouvée avec nos invités de la deuxième heure. Je vous les présente, ces invités de la deuxième heure. Il y a Bruno Costes-Beau et Clément Belin et Stéphane Dugast, grand habitué du temps d'un bivouac. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors Bruno Costes-Beau et Clément Belin, vous signez un joli roman graphique, hein, on dit aussi bande dessinée, mais roman graphique, ça fait mieux, intitulé Fortune de mer chez Futuropolis. Vous racontez comment se passe le remorquage de ces immenses navires de commerce qui, pris dans la tempête, menacent parfois de s'échouer sur la côte Finistère. C'est votre quotidien, hein, parce que vous travaillez tous les deux sur ces remorqueurs et vous participez à ces opérations de sauvetage qui permettent d'éviter bien des catastrophes, notamment on connaît hein, ces catastrophes. Stéphane, vous nous en parlerez parce qu'évidemment vous êtes le fin connaisseur du monde maritime et de son histoire, donc vous nous ferez profiter de vos éclairages sur ces missions de sauvetage en mer. On vous retrouve donc tous les trois dans un instant.